Alors, t'as entendu, Daniel? Tu sais, j'ai écouté ton émission mercredi avec Monsieur Ruffin. Ah ben, tu vois, ça m'a complètement infusé le cerveau, t'as entendu mon discours de Toulon? Eh, peut-être que Fillon, il avait pas Che Guevara dans sa chambre quand il avait 17 ans, mais je crois que Che Guevara, il l'a s'écouter maintenant. Hein? Eh ben, j'ai fustigé le capitalisme, j'ai dit qu'il était... Enfin, j'ai fustigé une certaine idée du capitalisme, j'ai bien dit qu'il était devenu complètement fou et qu'on s'éloignait des fondamentaux. J'ai quand même retombé sur mes pieds à la fin, t'as vu la jolie pirouette? J'ai quand même dit que c'est pas ça le capitalisme. Le capitalisme, ça fait 7 siècles qu'il a fondé notre richesse. Bon, bien sûr, j'ai pas évoqué tous ces esclaves qui ont bossé pour nous pour rien, mais il n'empêche que je suis retombé sur mes pieds. Je suis pas mécontent, car là, elle a dit que c'était bien aussi. Donc tu vois, je te remercie pour toute ton aide intellectuelle, et puis merci à M. Ruffin. Qu'est-ce qu'il était pas crédible, ce petit Nicolas, mais qu'est-ce qu'il était pas crédible, c'est marrant. Il lit bien les discours de Claude Guéant, hein, il le lit bien, il martèle bien, il articule bien les phrases et tout, il est vraiment fort. Hein. Sacré bonimenteur celui-là. Hein. Merci encore à tous les Français qui nous ont amené ce petit trublion sur la scène politique. C'était Lucas de Picardie, toujours aussi écuré et pas un génie pour un sou. Allez, salut Daniel, continue ton boulot et bonjour à toute ton équipe.
Le plus sidérant, cette histoire de subprimes, de crise financière, de crack, méga crack, c'est l'incroyable cécité de l'ensemble des acteurs économiques. C'est absolument. Ce matin, j'écoutais le duo de comiques là sur France Inter, le pseudo débat là, ceux et Maris qui est d'accord sur l'essentiel. À chaque fois, ils commencent toujours par des interventions par "je suis d'accord sur l'essentiel". Toutefois, qu'ils me sont permis d'apporter un petit élément de précision. Bon, bref. On baille d'ennui à écouter ça, et pendant ce temps-là, c'est quand même Dixit, notre chanoine de Latran, la pire crise depuis les années 30, et je pense qu'en la matière, il n'en fait pas trop, pour une fois. Il est dans le vrai, pour une fois, et il est bien placé pour le savoir. Donc, si j'en juge également au ton fébrile de la baronne du MEDEF, là, enfin, c'est plus une baronne, là, c'est tout comme, de l'héritière, là, gavée de caviar. Hier matin, elle n'était pas non plus à la fête, que je sache. Et donc, tout ça, ça nous pend au nez. Et c'est comme si ça n'existait pas en même temps. C'est-à-dire qu'on est comme un canard sans tête, on est comme un personnage de bande dessinée, là, enfin de dessin animé, suspendu dans le vide, qui continue de courir. Quoi. Voilà. Moi, ça ne m'a pas rassuré ce qu'a dit l'autre pignouf hier soir à Toulon. Voilà, je suis très inquiet, comme tout le monde. Ciao.
Bonjour messieurs, je suis tombé sur votre émission de radio voici quelques semaines. Je suis chef d'entreprise et je suis absolument outré de ce que j'entends sur une radio en plus de service public. C'est absolument scandaleux ce dénigrement perpétuel des entreprises, ce dénigrement des, entre parenthèses, des riches. Hein. Mais monsieur, ce sont les, comme vous dites, les riches et les chefs d'entreprise qui font vivre ce pays et il est important qu'on ait de la croissance. Et entendre des conneries comme j'ai entendu avec votre fameux professeur, je sais plus quoi, là, qui faisait son émission mercredi, c'est absolument inique, ces fameux 9%. Bien sûr que le capital, c'est normal que le capital il prend sur le travail. On est dans un monde qui est entièrement fini dans la finance. Vous devriez un petit peu comprendre. J'espère que mon ami Nicolas, enfin je ne le connais pas personnellement, vous passera à la moulinette et que votre émission passera à 3h du matin. Voilà, je vous remercie. C'était Monsieur Jean-Yves Le Drian, président de la société EAGS, à Douai dans le Nord. Merci, hein, au revoir.
Bonjour là-bas. Écoutez, j'espère que c'est bien là-bas, parce qu'ici, c'est pas terrible. Ce matin, je sais pas pourquoi, j'ai écouté France Inter, les infos, et j'entends l'ineffable Philippe Val nous sortir une équation formidable, qui est non à la présence française militaire en Afghanistan égale oui aux talibans. C'est beau, c'est grand, j'y avais pas pensé. C'est foudroyant. C'est un peu comme du E égale MC2, c'est quelque chose, c'est direct, il n'y a pas besoin d'explication. Non à la participation en Afghanistan égale oui aux talibans, c'est beau. Merci Philippe Val. Le mec, il se lève le matin, il se déplace tôt, parce que c'est tôt quand même, et il vient nous dire ça dans le poste. Et avant, il l'a écrit. Et bien moi, je dis, quand on arrive là, c'est beau. Merci Philippe. Et ça me rappelle évidemment l'ineffable... comment il s'appelle encore? J'ai oublié le nom. Mais ça devrait le rassurer. The yes needs the no to win against the no. Donc voilà. Je pense qu'au final, on a gagné. Merci. Au revoir.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. Bon, on est un petit groupe de militants de la CGT, de l'Union syndicale de l'intérim. Et oui, il y a des syndicats dans l'intérim. On est tous ensemble en ce moment dans une agence Manpower, rue Parot, juste à côté de la gare de Lyon. On occupe l'agence avec plusieurs dizaines de sans-papiers intérimaires qui travaillent depuis déjà maintenant 3-4 ans et qui demandent tout simplement d'avoir des papiers pour pouvoir enfin exister. On est preneur pour tout, les gens qui veulent passer, apporter leur soutien, adhérer aussi à un syndicat de l'intérim, participer, essayer de faire plier les pouvoirs politiques, parce que c'est vraiment un problème politique. Alors on voit bien à quel point nous à la CGT on fait notre possible pour que les choses s'arrangent, mais ça suffit pas. Alors il faut plus que ça, les politiques, l'opinion publique derrière nous, ces gens ont le droit de vivre aussi. Voilà, merci à tous ceux qui passeront pour venir nous donner un coup de main, alors financier ou de tout autre type. À bientôt.
Ouais, Daniel, disons, c'est Manu à Neuilly-Dijon. Alors, je suis content, si tu savais, j'ai un pouvoir d'achat, c'est terrible. Alors, je viens de regarder ma feuille de paye. Ah, c'est bon, j'ai un grand pouvoir d'achat. Alors là, je vais aller faire le plein de l'auto parce que bon, il y a le voyant qui clignote. Puis, faut mettre un peu de mazout dans l'auto pour aller bosser le matin à 5h, il n'y a pas de bus. Après, je vais remplir le frigo pour remplir le réservoir. Et puis après, ce que je vais faire, je vais payer le crédit de la maison. Faut que je laisse 108 euros aux alentours du 15, il y a des impôts qui m'en prennent, parce que tu vois bien, 1250 euros net par mois au bout de 19 ans de maison, chauffeur livreur, il faut bien que je paye un peu d'impôts pour que notre ami Sarko puisse aller s'amuser à inviter des chefs d'État étrangers ou je ne sais quoi, et puis ça y est, il n'y a plus de pouvoir d'achat. Ah merde, dis donc, je suis triste quand même. Je crois que je vais faire comme d'habitude, au 15 du mois, je vais pas regarder ce qui reste sur le compte, je vais regarder ce qui manque, et puis ma foi, on va faire avec, c'est pas ce mois-ci qu'on se paiera une moto, c'est déjà même pas ce mois-ci que j'emmènerai ma copine au resto. Mon pouvoir d'achat, va pas faire l'enfer encore une fois. Bonne bourre, Daniel. Salut.
J'aime bien la chute. Oui, c'est vrai, cette semaine, dans la basse, si j'y suis, on a beaucoup tapé sur les riches. Vous nous le reprochez, vous nous le dites, vous nous le redites, vous dites, c'est une émission qui devient totalement richophobe. Richophobe. Eh bien, on va essayer de se rattraper aujourd'hui. On va essayer, on est pas sûr qu'on y arrive. On va retrouver Éric Brunet, vous vous souvenez d'Éric Brunet? C'est toujours un bonheur de retrouver cet écrivain, auteur de « Être riche, un tabou français ». Là, je pense qu'on va pouvoir équilibrer, vous savez, ce que notre souci à nous, journalistes, c'est d'équilibrer, il faut équilibrer. Alors là, je pense qu'on va rattraper toute cette semaine richophobe. Mais auparavant, je voudrais vous faire écouter un petit instant de radio, comme on en a peu souvent l'occasion. C'était ce matin à 9h23 sur France Info, et je fais partie de ces centaines de milliers de Français à l'écoute de France Info, qui, durant un cent millième de seconde, ont cru que le monde avait définitivement changé.
Rebonjour à Jean-Christophe Martin qui revient pour la revue de presse. Jean-Christophe, qu'est-ce qui fait la une ce matin? J'ai une petite idée de la réponse.
À la une, évidemment, le discours de Toulon de Nicolas Sarkozy et un mot qui revient à la une de tous les journaux, l'État. Nicolas Sarkozy qui dit à Toulon, le laisser-faire, c'est fini, c'est la une de la Tribune. Face à la crise, Sarkozy brandit le bouclier de l'État, c'est la une des Échos. Pour le Figaro aussi, hier, Nicolas Sarkozy a dit non au capitalisme, ou plutôt, il n'a pas dit non au capitalisme, pardon, mais il a dit non à la loi de la jungle.
On s'y perd un peu là ce matin.
Et voilà, on a tous cru, qu'il l'avait dit hier, un lapsus lingué ou un refoulé. Attention à ce journaliste, il faut le surveiller. Et il se peut que ce soit son inconscient qui ait parlé. Voilà. Aujourd'hui donc, on retrouve Éric Brunet. Je voudrais donner une précision quand même au sujet de ce syndicat de l'intérim qui est quelque part à Paris. Très rapidement, la rue a été indiquée. C'est la rue Parot. La rue Parot, à côté de la gare de Lyon. C'est une agence, donc, Manpower, où ce syndicat de l'intérim attend votre soutien, y compris si vous êtes un gros financier, vous pouvez aller les soutenir, les aider, leur apporter des sacs pleins de sous, comme faisait le gentil Picsou. Voilà, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut Daniel. J'avais une question à te poser à toi et à ta fine équipe d'enquêteurs. Quel genre de contrat lie la Française des Jeux à la rédaction de France Inter? Parce que là, c'est étonnant. On nous annonce évidemment toutes les cagnottes, 1 million de plus, 1 million de moins, que j'en ai rien à foutre. Et là, on fait carrément des reportages sur les gagnants qui reçoivent leur chèque en pleine tranche d'info du matin. Donc voilà, vous avez un chèque, hein, vous pouvez manger du foie gras, ça change du McDo. Enfin, c'est étonnant et aberrant. Alors de bien avoir une raison à ça, eh ben on vous fait confiance pour la trouver. Salut.
Oui, bonjour, c'est cet appel là. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, cet appel, c'est juste pour vous signaler une manifestation qui va avoir lieu dimanche matin 28 septembre au péage du Canet de Mireuil, dans les Bouches-du-Rhône. Rendez-vous est donné donc à 9h du matin au croisement de Fuveau et de la Barque. Les autochtones seront houssés. Cette manifestation est organisée par les viticulteurs de la Sainte-Victoire contre un projet de TGV qui va relier Aix en Provence à Nice. Donc ce projet de TGV va une fois de plus défigurer la Provence verte, expulser des paysans et bien d'autres. Donc essayez de venir nombreux si possible. Voilà, je pense que tout est dit. Je crois me rappeler qu'un Africain avait dit à un voyageur occidental chez lui en Afrique, bien sûr, il lui avait dit la phrase suivante: vous avez les montres et nous avons le temps.
Encore une fois, on nous prend pour des cons. Laurence Parisot a dit sur France Inter à propos de la crise financière: on est tous dans le même bateau. De toute manière, quand on lui pose une question un peu épineuse, elle n'est jamais au courant. Ce qui explique qu'elle ne sait pas qu'il existe le radeau de Robinson et le fossé à Bernard Tapie. Alors, tous sur le même?
Selon nos calculs, en 2005, il aurait perçu par mois plus de 9 millions d'euros, près de 13 000 euros de l'heure. Mais il n'admet pas que l'on puisse trouver ces sommes exagérées.
Je pense qu'il faut que des fortunes puissent se bâtir. Je pense que nous avons tous le droit de devenir riche. Plus il y a de riches, et moins il y a de pauvres. Vous parlez un libéral, hein?
Je suis un libéral.
Moi, je suis libéral au sens...
Au sens où je crois à la liberté.
Mais idéologique.
Mais je suis également un humaniste.
Dis-moi ce que tu gagnes, je te dirai qui tu es.
2600 francs, je parle en francs, mensuels, net.
Mais c'est comme ça, c'est la réalité du monde libéral.
Par exemple, nous pensons par exemple que le coût du travail peu qualifié reste très élevé en France et que ça gêne les embauches.
Donc ça, c'est votre fiche de paye de septembre. Alors en haut, il y a marqué Carrefour. Et en bas, combien vous êtes payé?
Net, 837,63 €.
Le capitalisme n'est pas parfait, mais juste, il faut en accepter les règles.
Ouais, si j'étais...
Riche.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Renaud Lambert et Éric Brunet. Être riche, un tabou français.
Flight number 2, arriving from New York.
Gorbatchev donnait une interview et il s'est amusé des Français. C'est très étonnant, d'ailleurs. Il n'était pas en France, hein. Il était, je ne sais où, en Asie du Sud-Est. Et il s'est amusé des Français en disant que le seul pays vraiment de gauche avec la Corée du Nord, c'était la France. Et je crois que, bon, derrière la boutade, il y a un peu de vrai. C'est-à-dire que cette vision que nous avons de l'argent, de l'entreprise, de la croissance, de la mondialisation, de l'économie de marché, du capitalisme, eh ben, elle fait que, oui, nous demeurons un pays au sens de l'idéologie, quel que soit le régime politique. Nous demeurons un pays qui est ancré dans une vision extrêmement égalitaire, révolution française, de gauche, oui. Alors, finalement, cette idéologie que nous professons depuis si longtemps, eh bien, elle nous tient un peu éloignés de la réalité économique. C'est pour ça que les Français jugent mal le capitalisme. Parce que pendant que nous faisons de l'idéologie, pendant que nous disons il faut répartir, il faut tous gagner à peu près la même chose, eh bien, on n'apprend pas la science économique. Et c'est encore une fois très grave. L'immense majorité du corpus des enseignants d'économie sont des gens qui sont marqués encore par les théories marxistes, keynésiennes ou post-marxistes. Et c'est pas anodin. Comment voulez-vous qu'un jeune, qu'un moins jeune, qui est exposé en permanence au petit téléfilm avec la ritournelle anti-fric, qui a été à l'école, primaire, au lycée, au collège, à l'université, avec cette idéologie, un peu de gauche, un peu humaniste, un peu, il faut mieux répartir l'argent, il faut en finir avec l'argent de Total et les 12 milliards de bénéfices qu'on ne répartira pas avec les salariés. Eh bien, les gens qui sont au contact de cette idéologie deviennent peu à peu, idéologisés, c'est un fait, mais surtout moins matures sur les questions d'argent. Alors c'est là qu'on voit fleurir, des sondages édifiants. Hein. 61% des Français, sondage 2006, considèrent que le capitalisme n'est pas un bon système pour la France. Et alors c'est très rigolo parce que ce sondage a été fait dans le monde entier et on est dans les 10-15 pays les plus anticapitalistes du monde. Et c'est très étonnant parce qu'il y a des républiques islamistes, etc., qui sont plus idéologiquement enclines à aimer l'économie de marché que nous. C'est-à-dire que nous, on est vraiment, on doit être encore une fois avec la Corée du Nord et Cuba et peut-être Hugo Chavez dans cette idéologie anti-fric. Donc, effectivement, les Français, quand ils parlent de leur chef d'entreprise, ils vont les aimer s'ils sont vertueux. C'est-à-dire que le chef d'entreprise devra renoncer à ses dividendes, il devra, je caricature, se payer au SMIC, il devra prendre des emplois aidés, des handicapés dans son entreprise, etc. Il devra considérer que le profit n'est pas important, il devra donner de l'argent à des œuvres caritative, il devra être très vertueux comme ça, mais bien évidemment ne pas faire monter ses employés au mérite, parce que le mérite, c'est la subjectivité qui rentre dans l'entreprise et c'est par conséquent très dangereux. Je pense qu'on est sur un quiproquo dramatique et c'est très difficile en même temps d'évoquer ce sujet de façon libérée, parce que je me suis rendu compte, moi, dans des débats auxquels j'ai participé, que c'est tellement passionnel. Et on est tellement face à des gens qui sont immatures sur ce sujet-là. Donc, encore une fois, on est sur un travail culturel très lourd à accomplir.
Eh oui, un travail très lourd à accomplir, mais on est là pour ça. Nous autres, France Inter, là-bas si j'y suis, ce travail culturel très lourd, nous l'accomplissons chaque jour. Et nous allons l'accomplir à nouveau aujourd'hui avec Éric Brunet, Être riche, un tabou français. Avec Éric Brunet, nous allons essayer de vous rééduquer. Alors, je vais commencer par un petit test. J'ai là un article sorti dans le journal en ligne Bakchiche qui nous apprend, le titre de ce petit papier, c'est « La reine Christine pige à 120 000 euros ». De quoi s'agit-il ? Christine O'Krent est très bien payée pour assurer une chronique hebdomadaire de 3 minutes en deux langues sur France 24, chaîne sous tutelle de son compagnon, le ministre Bernard Kouchner. Donc voilà, Christine O'Krent va se faire 120 000 euros par an pour deux fois 3 minutes, une chronique qui sera traduite en anglais. Donc c'est 3 minutes plus la traduction qu'elle fera elle-même parce qu'elle parle parfaitement anglais. Voilà, elle va se faire 8 ans de SMIC chaque année. Voilà, et tout ça protégé par son ministre de compagnon Bernard Kouchner. Alors maintenant, nous regardons nos écrans, nous regardons ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous êtes indigné, voilà. Vous êtes scandalisé, vous êtes indigné, vous vous pincez le nez, vous ricanez, enfin, etc. Eh bien, tout ça, c'est mauvais. Ce sont de très mauvais réflexes. Il faut applaudir, il faut dire « Ah, formidable, elle est géniale, elle est super, elle est belle, elle est... » Vous voyez, il faut aimer les riches. Et c'est le boulot auquel s'est attelé Éric Brunet, « Être riche, un tabou français » chez Albin Michel. C'est pas n'importe quelle maison d'édition qui sort cet ouvrage. Alors c'est pas facile, c'est pas facile de retourner comme ça toute une culture, la culture de, regardez par exemple le général de Gaulle, vous voyez ce grand type, cette espèce qui disait mon seul adversaire, celui de la France, n'a aucunement cessé d'être l'argent. Et ben voilà, c'est ce qu'on a encore dans la tête, c'est ce que le général nous a mis dans la tête à tous, de gauche, de droite, etc. C'est que l'argent c'est mal. Et surtout c'est que les riches sont des gens dont il faut se méfier.
méfier, qu'il faut mettre à l'écart, et qui aujourd'hui, si on le regarde bien, vivent dans un ghetto. Mais oui, regardez comment ils s'habillent, les riches, avec des jeans déchirés, vous voyez, ils essayent de passer pour des pauvres, ils sont obligés de passer pour des pauvres. Ils ont des, comment ça s'appelle, vous avez des baskets, par exemple, des baskets. Ils sont obligés, ils ne peuvent pas vivre comme ils en auraient envie, comme chacun y a droit sur cette terre et sur cette planète. Donc, là-bas, si j'y suis, a défendu beaucoup de catégories sociales, de gens opprimés, victimes, etc. Aujourd'hui, nous partons en guerre pour les riches avec Éric Brunet. Merci, là-bas, si j'y suis.
Ouais, si j'étais...
Riche.
C'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui. À l'aventure tout simplement, c'est d'être un président, bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse comme on jouait Toby, et de finir sa course le soir en famille. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout devenir. Réussis ta vie, sois poète ou sois paysan, moitié méchant, moitié gentil, à l'aventure évidemment. Réussis ta vie.
Excusez-moi d'intervenir, mais je crois que vous avez les mêmes questionnements. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une question à vous poser. Dans quelle occasion on peut porter ces colliers, enfin...
Ben moi, ce soir, par exemple, je peux porter ça. Ben, ce sont pas
des bijoux pour tous les jours,
ni pour tout le monde. Mais c'est pas important.
C'est un autre monde, c'est un autre univers. C'est des gens qui ont des chauffeurs, qui se déplacent avec des gardes du corps. Ou le jour où ils n'ont pas envie de se déplacer avec des gardes du corps, ils ne vont pas porter ce collier. Vous pouvez les voir en jogging, au bois de Boulogne, avec leur chien.
Si vous voyez ça dans le métro, vous pouvez penser que c'est une fantaisie.
Je prends le métro, je dois faire une croix dessus. Donc.
Oui, mais pas parce que vous prenez le métro, parce que les gens qui sont dans le métro ne sont pas forcément des gens comme vous ou comme moi et qui vont vous arracher le cou pour vous prendre vos affaires. Voilà.
Bon, on continue nos courses.
Voilà. Voilà, on peut pas porter un collier de chez Boucheron dans le métro. On risque de se faire couper le cou. Eh bien, c'est inadmissible. On ne peut pas faire son jogging dans le bois de Boulogne avec ses bijoux librement, etc. Eh bien, voilà, c'est inadmissible. Pourquoi ces gens seraient-ils victimes? Vous avez tout dans la vie, hein. Vous êtes richissime, vous êtes beau, vous êtes jeune, vous avez... Tout est à vous, vous faites ce que vous voulez, etc. Mais il vous manque quand même ce petit truc formidable, c'est d'être une victime. Alors ça, c'est formidable parce que ça... D'abord, vous n'avez plus jamais aucun problème de mauvaise conscience, bien évidemment, puisque c'est vous la victime, et vous êtes respecté, vous êtes protégé, vous êtes défendu, extraordinaire. Donc. Eh bien, Éric Brunet a trouvé, riche, le riche est... voilà, les riches vivent dans des ghettos, les riches sont persécutés, et il faut vraiment les aider à reprendre leur place. Nous avons un président qui est le président des riches, l'ami des riches, qui aide les riches, qui finance les riches, qui leur donne, qui prend aux pauvres pour donner aux riches. Voilà, mais quand je dis ça, il faut comprendre Éric Brunet. Le raisonnement d'Éric Brunet, c'est de dire, écoutez bien, plus il y a de riches, moins il y a de pauvres. Voilà, c'est il a mis 250 pages pour nous expliquer ça. Après avoir eu un bon succès avec un livre qu'il a sorti au bon moment, au printemps dernier, qui s'intitulait « Être de droite, un tabou français ». Donc là, c'est « Être riche, un tabou français ».
Éric Brunet, vous êtes l'auteur de « Être riche, un tabou français » aux éditions Albin Michel. Est-ce que vous êtes riche?
Alors moi, bien évidemment, quand j'ai écrit ce livre, il a fallu que je fasse mon coming out et que je brise un vrai tabou. Et je me suis dit, il va falloir que tu avoues, parce que alors moi je gagne entre 5 500 et 6 000 euros net, donc je suis riche selon la formule de notre ami François Hollande, qui considérait qu'on était riche à partir de 4 000 euros. Voilà. Donc voilà, je fais partie des riches, et je pense qu'il faut absolument qu'on réussisse à dire en France combien on gagne. Et le jour où on sera parvenu à ce stade, ma foi, on aura fait, à mon avis, la moitié du travail. L'argent, dans une société comme la nôtre, qui est une société très clivée, avec des races, des cultures, des religions différentes, tout cela au sein de notre République française, eh bien, finalement, je me dis que l'argent peut redevenir un argent vertueux, en tout cas égalitaire. Et il faut en parler avec des gens qui travaillent aujourd'hui dans le monde caritatif, par exemple, pour découvrir que il peut faire des choses éminemment bénéfiques, et pour découvrir surtout, parce que sont ces gens-là qui travaillent dans vraiment l'univers caritatif, qui en parlent de façon le plus décomplexée. Et ils ont compris, peut-être sont les seuls en France qui ont compris, que plus l'argent irriguerait notre pays, et moins il y aurait de pauvres. Et malheureusement, on n'est pas tout à fait dans ce schéma culturel en France. Je crois qu'on est encore sur cette vision du 19e, qui considère que plus il y a de riches, et plus ils se constituent sur le dos des pauvres. Ce qui est absurde. On a dépassé ça depuis 100 ans. Aujourd'hui, je le répète, plus il y a de riches, et moins il y a de pauvres.
Pour beaucoup de gens, ça va sembler un paradoxe. En général, on dit, bah voilà, lui a plus d'argent, lui en a moins, voilà les inégalités. Et vous nous dites, non, l'argent peut, au contraire, être source d'égalité.
Eh bien, l'argent revêt une vertu quasi exemplaire, et surtout il s'installe là où on l'attendait pas. C'est-à-dire qu'on a toujours cette espèce de discours un peu commerce équitable, voilà, un peu teinté de Greenpeace et de José-Bovisme, qui amène à vilipender, bon, le grand capital, etc., Total et ses 12 milliards de bénéfices. Et en réalité, on se rend compte que concrètement, dans les quartiers, quand je dis dans tous les quartiers, qu'ils soient bourgeois ou pauvres, eh bien, on se rend compte que cet argent-là, il c'est simplement un trait d'union, et qu'il concourt à faire en sorte que un type regarde son voisin alors qu'il n'aurait pas regardé en temps normal, parce que ce voisin accomplit un travail qui fait que il est payé soudainement cet argent-là, eh bien, il devient facteur d'unification sociale.
C'est ça, c'est-à-dire que dans une société de préjugés, de tabous, d'idées préconçues, l'argent constitue donc une espèce de pierre de touche pour appréhender, juger de la valeur de quelqu'un.
Tout à fait. Par l'argent, dis-moi ce que tu gagnes, je te dirai qui tu es. Par l'argent, mais on se rend compte que un homme reconsidère un autre homme. C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai cette conviction profonde qu'il est en train de se passer en France, en ce début de troisième millénaire, ce qui s'est passé dans les États-Unis des années 30. C'est-à-dire qu'on a des petits ghettos de population, j'utilise le terme ghetto de façon un peu abusive bien sûr, mais en tout cas, on a des populations très clivées, pour des raisons d'habitude de vie, de quartier, et de race, de religion. Et soudainement, eh bien, cet argent, cette entreprise-là, hein, Big Brother, qui va employer 1 000 ou 2 000 salariés dans une banlieue, ou au cœur de Paris, ou en province, eh bien, cette entreprise, elle va générer du lien social, et surtout, elle va unifier des populations qui ne se seraient jamais parlé en temps normal, tout simplement parce qu'elle va considérer de façon extrêmement, allez, cyniquement économique, que le travail accompli par Monsieur Durand, par Monsieur Bensoussan ou par Karim, eh bien c'est le même, et que par conséquent, ces trois employés gagneront la même somme. Et ça, l'impact de cette notion-là, il est fondateur, à mon avis. Il est fondateur, et il est éminemment plus, comment dire, républicain et laïque qu'on pourrait l'imaginer.
Bernard Tapie, 39 ans, propriétaire d'un groupe de 42 entreprises et 8 000 salariés. Chiffre d'affaires annuel, 5 milliards de francs lourds. Son ambition, devenir dans quelques années l'un des tout premiers patrons de France.
Et moi j'assume, je suis un vrai capitaliste, qui vit comme un capitaliste. Moi j'ai le droit au profit, je me le donne ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné.
L'exemple le plus parfait, c'est Total. À chaque fois que Total, chaque année, divulgue ses résultats, bon, alors là, c'est haro sur le baudet. On est vraiment dans l'obscénité. On nous raconte que c'est insupportable. Alors là, c'est 12 milliards d'euros de bénéfices. Bon, alors, il faut écouter les radios, les télévisions, lire les journaux dans les jours qui suivent la publication de ces 12 milliards de bénéfices. C'est vraiment le capitalisme dans sa version la plus cynique qui crache à la gueule du peuple de France qui souffre. On est dans cette vision, c'est Eugène Sue, c'est Émile Zola. Alors qu'en réalité, bon, pourquoi ne le disent-ils pas? Je sais pas, mais en réalité, bon, tout le monde sait, les gens un peu documentés savent que ces 12 milliards, s'ils sont pas réemployés, mais dans les mois qui suivent, pour trouver de nouveaux forages, pour redéployer une activité sans cesse menacée par le jeu du capitalisme mondial et par les grandes majors pétrolières américaines, hollandaises, anglaises, etc. Si Total ne veille pas au grain en permanence, n'investit pas en permanence, ne trouve pas de nouveaux forages en permanence, ce fleuron de l'industrie pétrolière française ne figurera même pas au banquet des survivants à Noël. Donc, il y a une obligation, c'est une course vers l'avance, c'est le jeu de l'économie de marché, nous ne l'avons pas choisi. Mais si nous voulons être bons, il faut en accepter les règles. Et je trouve tellement incongru, stupide, que les tenants du commerce équitable, que la gauche un peu démagogique viennent attaquer Total là-dessus. C'est stupide. Et en même temps, c'est tellement facile. Mais il serait tellement plus compliqué pour un journaliste ou pour un politique d'expliquer ce que je viens d'expliquer. C'est juste, attention, le jeu de l'économie de marché est pas si simple que ça. Ces 12 milliards de bénéfices, c'est pas des patrons qui vont se les mettre dans les fouilles en faisant un bras d'honneur au prolétariat français. C'est pas du tout cette équation-là qui est la bonne. La bonne, c'est que c'est un fleuron magnifique qui emploie des gens. En France, beaucoup à l'étranger, vous avez raison, mais qu'on n'a aucune raison de le détruire et que répartir ces 12 milliards n'a pas de sens. Il faut au contraire que la société devienne plus forte, plus puissante, qu'elle se redéploie, etc. Voilà. Le capitalisme n'est pas parfait, mais juste il faut en accepter les règles.
C'est vrai que l'égalitarisme, c'est quand même une pathologie française, parce que derrière l'idée de l'égalité, qui est belle, à mon avis, qui est parfaitement désuète et stupide, mais bon, elle est pleine de noblesse, mais derrière cette idée-là, il y a des dommages collatéraux terribles. En France, on ne sait plus gagner d'argent. Nous ne savons plus, parce qu'on nous a pas appris à gagner d'argent. Hein. À force de ne pas magnifier les trajectoires qui sont belles, d'entrepreneurs, on en vient à donner l'envie à ces gens de quitter la France parce que il y a vraiment une relation de désamour très forte. Quoi. On est dans le désamour. La France n'aime pas ses riches et au-delà de ses riches, elle n'aime pas ces petits héros du quotidien, bon, qui ont réussi, qui ont généré de la croissance, qui ont employé des gens. Parfois avec une administration un peu pesante hein, qui leur a pas facilité la tâche. Moi j'en ai croisé beaucoup de ces petits héros du quotidien et j'en ai croisé beaucoup qui sont partis hors de nos frontières et qui sont partis avant l'élection de Nicolas Sarkozy et qui sont partis aussi après. Ben, ça c'était singulier, partir après, moi ça m'intéressait d'interviewer ces gens. Et je me suis rendu compte que ils sont partis parce que ils se sont dit que les mesures, bon, les mesurettes, vous savez, le paquet fiscal, allaient pas changer grand-chose et que Nicolas Sarkozy allait pas pouvoir mettre un terme à des siècles d'atavisme français. Et ils m'ont tous dit la même chose, ceux qui sont partis. On est partis, oui, pour des raisons fiscales, c'est vrai, mais pas que ça. On est partis parce que on nous aimait pas. Je me souviens du témoignage de ce chef d'entreprise. Là, il est à Londres aujourd'hui, et il m'a dit, mais maintenant, tout est fluide, tout est beau. J'ai économisé un peu d'argent, oui. Pas beaucoup, un peu, en allant à Londres. J'ai renoncé à des choses très importantes pour moi, qui sont mon rugby et ma culture cassoulet, quand je vous parle d'un chef d'entreprise du Sud-Ouest. Mais j'ai gagné quelque chose d'incroyable, c'est que tout est fluide autour de moi. On me donne de la facilité, on me donne de la considération, on me donne de l'amour. Et ça peut vous paraître étrange, quasi psychanalytique, mais ces chefs d'entreprise qui s'en vont et qui disent le mot amour, qui disent je gagne de l'amour, c'est édifiant. Mais oui, bien sûr, ils quittent la France
à cause de ce désamour, parce que ces gens-là, s'ils montent des boîtes, c'est aussi pour être gratifié. Quand on est chef d'entreprise, on a un ego quand même. Bon, on crée une boîte, etc. On a besoin d'être caressé dans le sens du poil et d'être gratifié. Mais ces gens-là l'étaient pas. Et c'est drôle. Moi, je m'attendais à ce qu'on me parle de techniques fiscales, etc. Et ils m'ont tous parlé d'amour. Bon, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières avec la souffrance du riche, mais c'est vrai que, bon, ces gens sont des gens, je le dis clairement, en souffrance. Parce que ils en avaient assez de ne pas être les petits héros d'une société qui aurait dû les gratifier davantage.
C'est la France qui doit rappeler au monde que le capitalisme a besoin pour être accepté de répondre à une exigence spirituelle et une exigence morale. Je suis un libéral au sens où je crois à la liberté.
Welcome to my world.
Vous savez, on a acheté une maison l'année dernière, il y a 2 ans à Saint-Tropez. C'est allé acheter une maison sur un golfe, le nouveau golfe de Gassin à Saint-Tropez, qui est quand même extraordinaire, qui est la position.
Dubaï, 30 mai 2006.
On l'a acheté, on est venu ici, c'était le moment où on pouvait acheter ici en tant qu'expatrié. Donc, on a vendu la maison tout de suite, qu'on venait l'acheter, et on a acheté 2 maisons ici. Et on n'achète pas le terrain, on achète la maison. Hein. Et dans mon cas où j'ai acheté une maison sur la mer, sur Piloty, on n'achète pas la mer non plus. On achète la maison. Voilà.
Vous avez acheté une maison sur Piloty ?
Oui, sur le deuxième palme. Ben, sympa, hein ?
Quand est-ce qu'elle sera livrée, votre maison ?
On parle dans 4 ans.
Vous avez le temps de la vendre 5 fois d'ici là, non ?
On a déjà fait...
C'est un placement ?
Ah oui, complètement. Ouais. Déjà, c'est un bon placement. Même là, si je... Elle n'est pas construite, même là, si je décidais de la vendre, c'est un très, 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 très bon placement.
Vous avez fait combien de plus-value déjà ?
On l'a acheté pour 2 millions de dirhams et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait la vendre pour 7.
C'est pour ça que les gars nous racontent qu'ils nous montrent des maquettes et ils nous disent on a déjà vendu la moitié ou le tiers, enfin. Ça veut dire que entre la maquette et le gars qui mettra vraiment les clés dans l'appartement...
Pour revendre, bien sûr.
Ouais. C'est ça, il y aura 4 ou 5 fois la culbute.
Il y a des investisseurs, oui, bien sûr. Ouais. On a eu une opportunité d'acheter sur plan au départ. Il fallait y croire, hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens expatriés qui n'y croyaient pas en disant « Attendez, arrêtez là ». Mais il fallait y croire. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Il y a un charisme, il y a une aura sur ce pays qui est extraordinaire. Vous devez le sentir d'ailleurs, vous devez le vivre. Il y a un tel optimisme ici, un tel développement, il y a un tel respect pour le pays et puis pour les gens qui le gouvernent. C'est le pays vit en harmonie, vraiment. Hein. Il y a un énorme respect des dirigeants, des princes, de la famille royale ici. Énorme. Et qui nous rend bien, hein. Qui nous rend bien. Je veux dire, on vit très, très, très bien. Tant qu'on respecte la loi. Alors, vous avez toujours ceux qui ne sont pas contents, il y a toujours ceux qui sont mieux chez eux, il y a toujours ceux-là, mais ça, ceux-là ne sont bien nulle part de toute façon. Par contre, si vous voyez d'autres Français, vous allez voir que les Français en général sont contents d'être là. Hein. Vraiment, vie en harmonie, je veux dire.
Dire du bien de l'argent, c'est signifier, ma foi, qu'on est vulgaire, qu'on est ordinaire, qu'on est un abruti, qu'on est un matérialiste, et c'est finalement rentrer en opposition avec tout ce qu'on nous dit depuis toujours. C'est extrêmement choquant de parler d'argent. Moi, parfois, ça m'arrive dans des réunions, des dîners, ça choque terriblement les gens. Les gens n'aiment pas ça, ils trouvent ça vulgaire et encore une fois très commun. Donc, on est vraiment, c'est diablement iconoclaste d'ailleurs de parler d'argent. Il faudrait que nous retrouvions la voie de la sagesse, que nous montrions du doigt les belles trajectoires, les sagas d'hommes d'entreprise qui ont réussi des choses fantastiques. Et la pathologie la plus grande que nous avons, c'est que nous sommes le pays le moins démocratique au monde pour devenir riche. Si on observe nos riches, d'abord, ils sont moins nombreux que dans l'Europe entière. Il y a plus de 50 milliardaires en Angleterre, plus de 50 en Allemagne. Il y en a beaucoup en Espagne. Chez nous, il y en a une quinzaine. Bon, il faudrait que la richesse soit démocratique. Il faudrait que n'importe quel type qui ait envie d'être riche puisse, avec du talent et de l'astuce et un peu de chance, réussir à être riche, quoi. Et c'est impossible. Il n'y a pas en France de trajectoire de riches, de vrais riches, qui soient accomplis ces 20, 30 ou 40 dernières années. J'adorerais qu'en France, il y ait des nouvelles fortunes qui viennent du monde de ce que vous voulez. Mais pourquoi pas des spéculateurs, on s'en fiche, mais que tout cela foisonne. Parce que ça, c'est très français. Hein. Ah oui, oh là, chef d'entreprise qui vend des boîtes d'allumettes, très bien. Ah, il vend des boîtes d'allumettes, il en fait plein, il gagne un centime d'euro de bénéfice sur chaque... Puis au bout de 10 millions de boîtes d'allumettes, voilà, ça fait de l'argent. Alors ça, on se dit, bon, alors les boîtes d'allumettes, on les fabrique, bon, il a monté l'usine, alors bon, ça c'est du bon argent. Surtout si le gars est sympa, surtout si le gars redistribue ses bénéfices. Ah, mais alors en revanche, là, le spéculateur, c'est la pire des choses. Alors le spéculateur, on est un peu dans l'idéologie d'avant-guerre. Hein. Le spéculateur, excusez-moi, c'est un peu le juif d'avant la guerre. Hein. On est là-dedans, d'ailleurs. Il faut parfois remplacer les mots quand on écoute José Bové, quand on écoute Besancenot parler de l'argent. Il faut parfois faire l'effort intellectuel de remplacer les mots et le mot riche, parce que c'est le seul mot, finalement, le mot riche sur lequel on peut encore pratiquer le racisme. Comment François Hollande, en pleine campagne électorale au mois de juin 2006, peut-il dire sur France Télévisions, le service public, dans une émission sérieuse, politique, je n'aime pas les riches, j'en conviens. Comment peut-on dire ça? Remplacer les mots. Comment peut-on dire je n'aime pas les riches? Ça veut dire quoi? Que le premier secrétaire d'un parti politique français, social-démocrate, qui a été un parti de pouvoir pendant 15 ans, dise je n'aime pas les riches. C'est honteux, c'est raciste. Comment qualifier ça? Tout ça fait que, finalement, cette espèce de classe sociale qui est en permanence attaquée, vilipendée, et qui supporte, en France, ben, tout le poids de l'économie, mais au moins on les respecte, ceux qui paient le schéma infrastructurel de nos routes, ceux qui paient nos CHU, ceux qui paient la culture française, les danseurs étoiles de l'Opéra de Paris, c'est eux. Donc, il n'y a même pas cette espèce de reconnaissance du ventre dans ce pays qui professe l'égalitarisme à tout va. Oui, alors le riche est condamnable, donc alors on le ponctionne, et puis après on lui donne un coup de pied au ventre. Voilà espèce de d'équation française que je trouve, moi, vraiment mauvaise et pas exemplaire du tout.
Et voilà, François Hollande, José Bové, Olivier Besancenot ont ceci en commun qu'ils sont, eh oui, il faut le dire, antisémites, mais bien évidemment, puisqu'ils n'aiment pas l'argent. Voilà, Éric Brunet a le bagou, il a ce qu'il faut. Mais alors, la question qu'on peut se poser quand même, c'est, est-ce que faut-il que le capitalisme soit malade pour qu'il ait besoin d'être défendu? En tous les cas, c'est ce que fait Éric Brunet, ce croisé des riches, cet homme qui part en croisade pour défendre le capitalisme et l'enrichissement.
Ouais, si j'étais...
Riche.
Alors, vous expliquez dans le livre qu'une des raisons pour lesquelles on est dans cette situation, c'est que la majorité des journalistes sont des journalistes de gauche.
C'est vrai qu'un sondage de 2002, c'est le dernier que nous ayons, il n'est pas très récent, bon, témoigne du fait que 6% seulement des journalistes interrogés anonymement par un grand institut de sondage disent être de droite. Donc 6%, c'est pas beaucoup, alors ça a peut-être changé depuis 2002, mais ça a changé de quelques pourcents. Et puis moi qui suis au milieu des rédactions, je peux vous assurer que ça a changé, mais de façon assez subtile si ça a changé. Bon, moi c'est pas un jugement de valeur d'abord, moi tout le monde sait que je suis plutôt quelqu'un de droite et un peu libéral, voilà. Mais je ne rêve pas du tout d'un monde de droite et encore moins de rédaction de droite, je rêve d'un monde un peu pluriel. Je fais ce petit préambule, il paraît nécessaire. Alors, oui, les intelligences de gauche, oui, les journalistes de gauche, oui, les gens qui travaillent dans le monde de la culture et qui sont plutôt de gauche, oui, les enseignants, parmi lesquels il y a bien sûr des gens de droite, hein, mais oui, les enseignants qui sont même plutôt globalement de gauche, véhiculent une vision désuète de l'argent, qui est marquée au sceau des théoriciens marxistes, post-marxistes, ou tout simplement des politiques plus sociaux, enfin la social-démocratie, puisque tous les gens de gauche ne sont pas marxistes ou trotskistes. Mais en tout cas, leur trajectoire personnelle au sein de la pensée de gauche les amène quasiment tous, à entretenir une relation extrêmement méfiante avec l'argent. Ça, c'est fondateur. C'est-à-dire que Et il faut arrêter de croire qu'il existerait en France une gauche social-démocrate, blairiste, qui parlerait de l'argent de façon décomplexée. Cette gauche-là n'existe pas. Ou elle existe, mais elle est à droite. Elle s'appelle Jean-Marie Bockel, Besson, et elle a rejoint la droite. Voilà, clairement. C'est-à-dire que ce Jean-Marie Bockel-là, qui se présente depuis des années comme le Tony Blair français, faut pas oublier qu'il présente des motions dans les congrès du Parti Socialiste depuis des années, sous le thème ou l'intitulé « Pour un socialisme libéral », et il est soutenu par des gens comme Edith Cresson, des gens qui sont sérieux, hein, et des motions qui recueillent entre 0,5 et 1% des voix au sein du Parti Socialiste. Et bon, c'est tout à fait significatif de ce qu'est la gauche française. C'est une gauche qui, sur ce point très précis de l'économie de marché, de l'argent, du capital, est une gauche à l'ancienne.
Est-ce que ça, on n'est pas un peu en train de dépasser en France quand même? Parce que votre livre arrive à un moment où il pourrait y avoir un basculement, non?
Alors aujourd'hui, bien évidemment, Sarkozy est aux affaires. Bon, il a des Rolex un peu brillantes. Il a médailles. Il a introduit les Nike à l'Élysée, etc. Donc, ça choque beaucoup les gens. Moi, je pense pas qu'il ait vraiment décomplexé les Français sur ce sujet, qui est l'argent. Les Français sont très nostalgiques de ce général de Gaulle, qui payait lui-même son essence pour aller à Colombey le week-end, qui allait lui-même acheter ses timbres. Hein. Et le mythe français, il est plus là. Il est plus ancré là-dedans. Et pour changer des réflexes culturels très profonds, très très profond. Je pense qu'il faut plus qu'un Sarkozy. Je pense qu'il faut une véritable révolution culturelle profonde qui passe par l'enseignement supérieur, etc. Et qui, une fois pour toutes, décomplexe notre relation à l'argent. C'est-à-dire qu'on est dans une culture qui n'aime ni l'argent, ni la croissance, ni l'excellence industrielle, et qui trouve que finalement tout cela est suspect, louche, à la limite de la fraude fiscale. Vous voyez, voilà.
Pourquoi vous avez décidé de venir vous installer ici, vous, alors?
J'ai décidé parce que j'ai supporté Mitterrand pendant 14 ans. Et quand j'ai vu que de nouveau, il y avait Jospin qui devenait Premier ministre, là, j'ai pas supporté. J'ai dit, je m'en vais, je reste pas. Jospin, ça a été un coup très dur parce que c'était la France que je voyais se perdre.
Bruxelles, septembre 2007.
Socialisme, d'accord, mais après, je croyais quand même... Donc je me suis dit, les Français vont se rétablir. L'intelligence de Mitterrand n'étant plus là, ils vont comprendre maintenant. Eh ben non, ils ont pas compris. On a recommencé, on a remis ça. Maintenant, là ce matin, j'entendais que la France était le pays où il y avait plus de dissidence. On bat les records de tous les soucis partout, dans tous les domaines. La France n'est pas dirigée, j'espère que Sarkozy va y arriver, quoi. C'est tout.
Là, ça vous donne pas envie de revenir, vous en parliez?
Non, moi, pas du tout. Moi, je rentrerai jamais. D'abord, je suis devenue belge. Attendez deux minutes, il faut que je regarde où on va. Le premier. Qu'est-ce que c'est ça?
Oui, puisque là aujourd'hui, c'est le guide pratique pour l'installation en Belgique des Français. Hein,
voilà. Alors le premier qu'on va voir, c'est l'avocat. Parce que c'est la première personne qui est importante à voir. Après Jospin, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Quand vous avez une petite boîte que vous montez, vous avez 25-30 ans, vous arrivez à 58-60 ans, à ce moment-là, on vous dit, par ici la bonne soupe, votre travail, monsieur, va récompenser les autres. Mais pas vous. Alors vous allez payer 80, 90, jusqu'à 150% d'impôts pour Darty, hein. C'est indécent. Ça c'est le communisme, c'est ça détruit tout.
Mais il y a des socialistes aussi en Belgique, non?
Il y a des socialistes, mais alors en Belgique, c'est pas du tout pareil. Tout le monde s'entend. Ils n'ont pas la bonne mentalité soviétique. On s'arrange. Et puis il n'y a pas de lutte des classes en Belgique. Alors ça, vous allez voir ça ici, il n'y a pas de lutte des classes. Les pauvres en Belgique sont très très aidés, très pauvres et très aidés.
Enfin, c'est des pauvres serviables
ou... J'en vois pas tellement.
Alors, Éric Brunet, à la page 30 de votre livre, on peut lire, je vous cite, « Un riche, ça se cajole un peu, ça se bichonne, on s'arrange pour faire converger ses intérêts avec ceux de la nation. » Alors dites-moi, est-ce que c'est pas un petit peu la définition de la plutocratie, c'est-à-dire un système où ce sont les riches qui dirigent le pays? Simplement parce qu'ils sont riches.
Peut-être, mais pour moi, c'est la définition du bon sens. On est un pays d'idéologie. On aime l'idéologie. On aime s'engueuler fraternellement autour d'une table. On aime manier les idées. Mais parfois, il faut induire dans tout ça un tout petit peu de bon sens. Voilà, L'idée, elle est très simple. C'est que vaut mieux un riche à Nevers, à Carpentras, à Arcachon ou à Montluçon qu'un riche, voilà, à Zurich, en Angleterre ou aux États-Unis. Voilà, sur ce principe-là, on est gagnant. Donc, il faudrait mettre un tout petit peu de bon sens hein, dans notre idéologie.
Éric Bonnet, j'aimerais que vous m'éclairiez sur quelque chose. La fortune de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, a augmenté de 371% entre 2002 et 2007, c'est-à-dire beaucoup plus vite que le PIB français. Alors évidemment, on peut dire que le capitalisme a réussi le miracle de la multiplication des pains, que la richesse est infinie, mais si on ne croit pas à cette idée, est-ce que l'augmentation de la richesse de Bernard Arnault ne se fait pas finalement au détriment d'une plus juste répartition, et notamment d'une répartition des richesses produites par ces sociétés auprès de ses salariés ?
Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Si on commence à avoir l'obsession de la répartition, on crève. Voilà, c'est tout. Les richesses, bien évidemment, elles se construisent de façon quasi asymptotique, qui sont enivrantes. Voilà.
Vous pouvez expliquer asymptotique ?
Asymptotique, c'est qui tendent vers l'infini. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est la réalité du monde libéral. Et donc simplement, considérons que ces fortunes-là, elles sont bénéfiques. Parce que, de toute façon, cet argent, il finira toujours par irriguer la société française. Il y a plein de façons. Un riche, même si c'est un spéculateur, il consomme. Un riche, il emploie. Un riche, il a des idées. Un riche, il fait du mécénat. Un riche, il finit toujours par irriguer la société française. C'est pour ça que cette espèce de vision que professe l'extrême gauche, obsédée par la répartition, hein, qui dit que bon, les riches se construisent sur le dos des pauvres, elle est caduque. Elle est caduque et on est dans un quiproquo théorique tragique. Je pense qu'il faut que des fortunes puissent se bâtir. Je pense que nous avons tous le droit de devenir riches. Je pense que précisément la richesse, et là c'est un judéo-chrétien qui vous parle, la richesse, même quand elle est abjecte, cynique, quand elle voisine avec la pauvreté, bon, Dieu sait qu'elle est choquante dans ces moments-là, on a tous envie de se révolter, et bien même cette richesse-là, avec ses voitures de sport rouges, voilà. Eh bien, même cette richesse-là, dans sa dimension choquante, elle est utile parce que elle finit par être bénéfique à la société. Bon, encore une fois, un riche, il achète des tableaux, il achète une maison, il emploie des gens, il crée une nouvelle société dans un nouveau secteur, il finance des boîtes de pub qui font de la publicité pour ses produits, il tire la France vers l'excellence industrielle parce qu'il est riche, donc il est plus exigeant en matière de services. Hein, donc il veut manger mieux, il veut consommer mieux, etc. Donc il nous tire vers l'excellence, voilà. Un riche, il va pas accepter que le service après-vente pour sa télévision soit pas impeccable, et il a des moyens de pression, le riche. Il faut que vous soyez bon, parce qu'autrement je change. Donc il faut arrêter avec cette culpabilisation permanente qui est implémentée par la gauche, quoi. Arrêtons de toujours vouloir leur piquer du pognon. Leur pognon, ils nous le donneront toujours un jour.
C'est bien, hein. On a passé vraiment un moment délicieux. On s'était promis, mais j'avais oublié en commençant, on s'était promis de vous dire que c'était pas une émission indispensable. Écoutez, voilà, c'est trop tard maintenant. Vous l'avez suivi jusqu'au bout, Être riche, un tabou français, d'Éric Brunet aux éditions Albin Michel. C'était un entretien réalisé par Renaud Lambert. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures en boucle et vous pourrez ensuite la réécouter sur le site non officiel de là-bas si j'y suis, là-bas.org, où vous pourrez faire des commentaires. Après l'avoir écouté une bonne dizaine de fois, vous aurez compris peut-être certaines choses et vous pourrez sur l'un de ces sites nous faire bénéficier de vos analyses, vos commentaires et vos remarques. Merci d'avance. Et puis n'oubliez pas les repères de la basse J'y suis, qui sont nombreux en France et qui continuent de fleurir à droite et à gauche. Les repères, le système des repères, vous trouvez un bistrot sympa dans votre quartier et vous décidez de fonder un repère. C'est très simple, c'est-à-dire que vous allez nous dire, voilà, je crée un repère à tel endroit, et voilà le bistrot, voilà le premier rendez-vous que je lance aux auditeurs du voisinage. Et puis voilà, ça roule. Et ça roule un peu partout comme ça en France. On a des échos. On fera des reportages d'ailleurs dans certains de ces repères prochainement. La technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Sandrine Laurent, c'est Koye Nguyen et Raphaël Moutère qui ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry, et c'est Agnès Lebot qui attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Réclame.